relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur l'autre radio, vous êtes toujours en effet sur l'autre radio et bienvenue dans l'émission On relève la sauce, émission où je vous propose de découvrir les ingrédients de la vie associative mayonnaise. Au menu du jour, des portraits d'associations. Alors qu'elles soient à caractère social ou caritative, culturelle et mais également sportive, je vous propose donc de découvrir aujourd'hui l'association Planète Môme 53, donc de Château-Gontier sur Mayenne, l'association Toufa pour Fa, c'est pas facile à dire, et la section sportive Laval Ultimate. Et pour finir donc cette émission, on retrouvera Christophe Troupeau pour un petit coup d'œil dans le rétro, c'est-à-dire l'association l'histoire des associations dans les communes rurales mayennaises de 1830 à 1930, qui après nous avoir parlé lors de la dernière émission des sociétés littéraires au XVIIIe siècle, revient aujourd'hui sur les cercles angevins ou les sociétés d'hommes dans les années 1830-1860. Tout un programme. Alors, c'est parti, et en ouverture de ce menu, on retrouve l'association Planète Môme 53 de Château-Gontier sur Mayenne, avec donc qui organise la bourse aux jouets. Donc plus d'explications, avec deux de ses bénévoles.
Bonjour.
Alors moi je suis Elodie, je suis bénévole et je fais partie du bureau de l'association depuis avant le Covid, un petit peu. Voilà, on est une soixantaine entre 100, entre 70
80,
et 90
ouais,
de bénévoles. Et donc voilà, je suis aussi membre du bureau parce que ça me tenait à cœur de pouvoir proposer des choses.
Donc moi je suis Françoise, donc je suis présidente depuis la création de l'association. En 2003, avant la création de l'association, on était un groupe, on va dire informel. À l'époque, on était un groupe d'assistantes maternelles. L'organisation de la bourse a commencé en 87, si mes souvenirs sont bons. On a
D'accord.
commencé avec 7 bénévoles et 70 jeux déposés. Mmh. Et maintenant, on est aux alentours de 80 bénévoles et on a presque 6000 jeux déposés. On est en partenariat avec la mairie. Mmh. Donc et puis en 2003, notre petit groupe a tellement grandi, on n'était plus assez d'assistantes maternelles. On a été chercher nos maris, nos voisins, nos amis. On grandissait, on était victime de notre succès. Donc on s'est créé en association en 2003, avec toujours l'aide de la mairie. Et le but, c'est de
proposer des jeux d'occasion.
De proposer des jeux d'occasion à petit prix. Le recyclage, c'est dans l'air du temps, hein. Et puis de permettre surtout aux familles qui ont des petits budgets de faire un Noël correct, puisqu'on fait toujours le troisième week-end de novembre, donc 4 semaines avant Noël. Et il y a des papis, des mamies qui font le Noël de leurs petits-enfants à très peu cher, puisque si mes souvenirs sont bons, en 2019, puisqu'on n'a pas fonctionné en 2020-2021, mmh. en 2019, le prix moyen du jouet devait être de 4,37 € ou 39, je ne sais plus. En sachant qu'il y a des petits hochets à 50 centimes et des vélos à 60-80 €. Voilà, les enfants ont grandi, les jeux sont dans le grenier, ils ne servent à rien, autant qu'ils servent. Hein. Le vendredi, les déposants, les vendeurs de jouets arrivent avec leurs jeux. On a tout un nombre de bénévoles qui vérifient les jeux. On demande à ce que les jeux soient complets, en bon état.
Que les livres ne soient pas déchirés ni écrits dessus.
Voilà.
Et en fait, il y a tout un stand de vérification au moment du dépôt des jeux. Et du coup, donc les bénévoles qui sont à ce stand vérifient avec des piles neuves, avec si les puzzles sont entiers, si les jeux ne manquent rien. Donc on fera vraiment l'inventaire de tout le jeu qu'il y a devant nous.
Ah, les grands puzzles de 1000 pièces, ils doivent nous arriver faits sur une planche, parce qu'on ne peut pas se permettre de compter 1000, 2000, 3000 pièces.
C'est ce que je comprends. Ouais,
Alors, on refuse aussi les peluches pour une question d'hygiène.
Ouais.
Et on refuse aussi tout ce qui est jeux, jouets... plus de 18 ans. Des jeux vidéo, des CD, on reste dans le monde de l'enfant. Une fois qu'ils ont été acceptés par l'équipe de vérification, Les gens passent après à des caisses. Ils sont enregistrés, on est informatisé avec des codes barres. Donc chaque jeu est codé avec un code barre. Et après, une autre équipe les met en rayon sur des tables.
En fonction des thèmes, en fait. Ça peut être voilà. Un thème Playmobil, un thème construction, un thème puriculture, juste
voilà,
comme ça.
Voilà, les poupées, les tout est bien. On a des grands panneaux. Le tarif, on le décide ensemble, hein, entre le vendeur et l'acheteur. Si nous, en tant que dans l'association, on estime que c'est trop cher, on dit non, vous n'allez pas le vendre à ce prix-là. Les gens ne viennent pas ici pour dépenser 500 euros. Hein. Donc,
c'est pas l'objectif.
C'est pas l'objectif. Nous, une fois qu'on aura fait la vente le samedi, le dimanche matin, les vendeurs sont invités à revenir chercher soit l'argent de leur vente, moins 12%, parce que nous, on garde 12% pour nos frais, ou leurs invendus s'ils n'ont pas tout vendu, quoi. Donc, ils récupèrent quand même de l'argent. Les dernières éditions ont tourné autour de 80 bénévoles. Là, on a fait appel à nos bénévoles là, en juillet, savoir s'ils étaient prêts à repartir, parce qu'après 2 ans d'arrêt...
Tout à fait, ouais.
Donc, on a été agréablement surpris. Hein, les gens sont prêts
revenus.
À revenir.
Ok, très bien.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la date là, pour cette année?
Alors, c'est le troisième week-end de novembre, donc, du coup, du 17 au 20 novembre.
Dans cette salle, là, l'espace
Saint-Fiacre, à Château-Gontier.
Oui, voilà. Les autres années, c'était à la Halle de Hautanjou, et là, maintenant, on sera dans cette salle-ci. Il y a juste encore une chose. Quand l'association a récupéré pas mal d'argent, on fait des dons à d'autres associations aussi. Si on a suffisamment d'argent, on ne le fait pas tous les ans, hein. Mais on a déjà fait des dons au profit d'enfants dans le pays de Château-Gontier. Dans les 12%, il y a une partie pour nous, pour notre fonctionnement. Okay. Et là, il y a une bonne partie qui est reversée. On a fait des dons de 1 500 euros hein, certaines années.
C'est quand même aussi l'un des objectifs.
Oui, voilà. Mais on reste dans le monde de l'enfant.
Et dans le monde du social et du solidaire.
Voilà. Très bien.
Okay. Et on reste sur le pays de Château-Gontier aussi. Toujours à la recherche de bénévoles. Donc, comme je disais, on était 80 là environ. L'idéal, ce serait de tourner à une centaine de bénévoles pour être moins sollicités.
Moins sur la course, ouais.
Oui. Donc, vous pouvez nous joindre. Alors, on a une adresse mail qui est planetemome53@gmail.com. Merci.
Au revoir.
Et vous pouvez donc également les contacter ou retrouver toutes ces informations sur leur page Facebook Bourse aux Jouets Château-Gontier sur Mayenne. Donc on le rappelle, donc cette bourse aura lieu le 19 novembre au parc Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne. Changement de registre maintenant pour la suite de ce menu, pour partir sur une note un peu plus culturelle avec l'association lavalloise Tout Fa pour Fa, je vais réussir à le dire, qui tout au long de l'année se retrouve et répète afin de monter un spectacle, mais aussi avec une partie, on va dire, solidaire. Alors plus de précisions avec le chef de chœur de cette association.
Michael, je suis le chef de chœur de Tout Fa pour Fa. C'est une association toute jeune qui a maintenant 1 an, qui chante. Alors on n'appelle pas ça une chorale, parce que je ne suis pas devant en train de diriger et ils ne sont pas en pupitre statique, en demi-cercle. Je suis au piano, je les accompagne. Ils se déplacent sur scène, ils sont pour l'instant une trentaine. On cherche pas à être beaucoup plus nombreux parce qu'on veut garder le côté convivial de la chose. On reprend des chansons, de la chanson française des années 50 à aujourd'hui, avec des arrangements des fois un peu originaux, décalés. C'est ce qui fait la marque de fabrique de Tout Fa pour Fa. On a aussi un medley. On fait des chansons d'artistes connus et des artistes qu'on appelle de la nouvelle scène française. Ça peut être Clarica, Les Ogres de Barbac, Juliette, parce que le but, c'est aussi de faire découvrir des auteurs, compositeurs que les choristes ne connaissent pas et que les spectateurs ne connaissent pas. On veut essayer de garder un souci d'équilibre vocal, sachant que c'est toujours plus difficile de recruter des garçons. Donc, messieurs, je fais appel à vous. Et puis, un souci d'équilibre de pupitre, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de soprane, trop d'alti. Par rapport au nombre d'hommes. Là, on avait un bon équilibre cette année. On avait 9 voix d'hommes pour 30 personnes. Donc, ça fait un petit tiers. Donc, on était vraiment bien. Tous les lundis, de 20h à 22h, à la maison de quartier de Grenou, du côté du Carrefour. Et il y a possibilité de faire 2 essais consécutifs pour voir ce qu'on fait, si la façon de faire convient, si le répertoire convient, voilà. Sachant qu'il faut travailler chez soi. Donc, je fournis des MP3. avec les voix d'hommes, les voix de femmes, pour que les gens puissent travailler ce qu'on a vu à la répétition, puissent le retravailler chez eux, pour que le lundi d'après, on voit un autre bout du morceau. On fait petit bout par petit bout, et au bout de 3 ou 4 lundis, en général, il y a 2 chants de montée. Cette année, on avait 15 titres à apprendre de septembre à février. Et à partir de mars, avril, mai, juin, on fait surtout les déplacements. C'est pas des chorégraphies, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des déplacements, des intentions, des postures. Et le but, c'est d'interpréter des chansons. Alors, des fois en pupitre, mais très souvent mélangées. C'est-à-dire que les sopranes sont à côté des altis, les hommes au milieu de tout ça. Il y en a qui chantent debout, il y en a qui chantent assis. Et on a des jeux qui sont en fonction des titres qu'on propose. On avait par exemple cette année une chanson de Juliette qui s'appelle « Mes mères dans les orties ». Et on avait un groupe de femmes avec un groupe d'hommes à l'opposé qui se répondent parce que la chanson veut ça et qu'on a eu cette idée de mise en scène de dire « bon bah on va le faire comme ça ». On fait le forum des associations pour faire connaître notre association et puis aussi découvrir de nouvelles associations parce qu'on aimerait jouer au profit d'associations. On a réservé pour l'année prochaine l'avant-scène le 1er juillet et on aimerait le spectacle de l'après-midi le faire au profit d'une association. On a été voir quelques associations qui représentent aussi les valeurs que nous on véhicule, la convivialité, la bienveillance. On a des personnes en situation un peu de handicap dans le cœur et on cherche des associations qui seraient prêtes à prendre les frais qu'il y a à prendre de toute façon une location de salle. Moi, je suis chef de chœur et je suis professionnel intermittent du spectacle, donc il y a des charges incompressibles. Mais tout le reste, tous les bénéfices iraient au profit de cette association.
D'accord.
Et on cherche des associations locales et pour essayer d'aider aussi le milieu associatif qui a beaucoup souffert avec la crise sanitaire. Et puis, c'est aussi dans les statuts qu'on a écrits quand l'association a été créée. Merci beaucoup.
Et merci à Valentin pour avoir recueilli ses propos lors du forum des associations de Laval. Donc vous pouvez également les contacter. Donc voilà, donc avis donc aux associations qui souhaiteraient lier un partenariat avec Toufa pour Fa. Et si vous souhaitez participer en tant que choriste, vous pouvez donc les contacter par le biais de leur site internet ou page Facebook. Tous les contacts sont à retrouver aussi sur l'autre radio. Et sur le podcast de cette émission, on relève la sauce. Alors on va prendre le temps de digérer tout ça et on se retrouve tout de suite après la pause musicale. Et puis à tout de suite. We'll be right back. C'était Pousse les ailes de Joe Joa et le lieutenant Nicholson sur l'autre radio. Et donc vous êtes toujours dans l'émission On relève la sauce à la découverte des associations mayonnaises. On continue donc cette découverte avec un côté sportif, donc avec un sport assez peu connu mais, et pratiqué. Mais l'Ultimate en tout cas a tout de même une section sportive à Laval et je vous propose donc de découvrir ce sport mixte auto-arbitré avec deux de ses bénévoles.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien bonjour, moi c'est Arnaud Thomine, donc voilà, je suis le président de la section Ultimate du Stade Laval Omnisport, donc le Stade Laval Ultimate. Le club a été créé en 2010, donc voilà, ça fait maintenant 12 ans qu'on est là. On a rejoint l'Omnisport depuis 2015. On participe aux compétitions fédérales depuis 2011, donc on n'est pas très nombreux. C'est l'image qu'on a souvent quand on parle d'Ultimate. On dit ah ouais, le sport de frisbee, on se fait des passes sur la plage, mais c'est très 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 réducteur. C'est avant tout un sport collectif. Voilà, c'est un sport collectif qui se joue effectivement avec un frisbee, mais qu'on devrait appeler un disque, parce que le frisbee, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est une marque. C'est deux équipes qui s'affrontent sur un terrain et le but du jeu, c'est de faire évoluer le disque dans la zone de but adverse. Ça ressemble beaucoup au rugby ou au football américain, car pour marquer un point, il faut réceptionner le disque dans la zone de but. Pour moi, c'est le sport collectif par excellence du fait qu'il n'y a pas de place pour un exploit individuel, ou très peu, il faut au moins être deux.
Alors, c'est un sport mixte, hommes et femmes peuvent jouer ensemble. Donc on va avoir plusieurs formats, on va avoir le format outdoor, donc extérieur. Donc là ça va être du 7 contre 7. Donc le contact est proscrit, il peut arriver, mais c'est vraiment involontaire. On va pas rechercher le contact. But du jeu en défense, c'est juste que le joueur adverse ne puisse pas attraper le disque.
Deux particularités, c'est un sport qui se pratique en auto-arbitrage. Le fair play est très très important en Ultimate. Est tellement important qu'il y a un classement du fair play auquel toutes les équipes participent. Toutes les équipes se notent en fait. Et à la fin d'une compétition, le classement du fair play.
Il y a un prix spécifique.
Il y a un prix spécifique, tout à fait.
Pour l'équipe
qui a eu un comportement le plus correct sur le terrain. Et la deuxième particularité, c'est que je pense que c'est l'une des raisons. Le fait que c'est un sport sans contact, où il y a un rapport avec la puissance moins important, c'est un sport qui peut se jouer parfaitement en mixte.
En mixte,
c'est-à-dire homme-femme peut se retrouver sur le même terrain. Et il y a même des compétitions où pour y participer, c'est obligatoire d'avoir une équipe mixte. Moi, ça change quoi, de faire un sport collectif où des garçons et des filles jouent sur le terrain. C'est à partir de... Mathieu, tu vas peut-être me confirmer, à partir de 14 ans, je crois.
À partir du lycée, donc 14-15 ans, parce que c'est un peu contraignant au niveau des horaires au sein du club à Laval. Donc le plus tôt qu'on va commencer, ça va être 19h30 le lundi et ça va finir à 21h30, et le mercredi ça va être de 20h à 22h
septembre jusqu'à début novembre. Au terrain des Gandonnières le lundi et le mercredi, et ensuite quand vient vraiment l'hiver et le froid et la pluie et le vent, on passe au gymnase Jeff Lemoine. On se regroupe sur 4, 5, 6 week-ends dans l'année maximum. Par contre, quand on se déplace, on enchaîne plusieurs matchs. C'est pour éviter... et en plus, c'est écologique. C'est pour éviter de faire des kilomètres tous les week-ends pour aller rencontrer une équipe, quoi. Et mine de rien, je vois, par exemple, dans le Grand Ouest, c'est vrai qu'on se retrouve très vite pour rencontrer une équipe à faire au moins 60 km, hein, parce que les clubs les plus proches de chez nous sont Rennes, Le Mans, Angers. On est super sympa, faut venir. À la fin de chaque entraînement, on prend le temps de discuter, de boire un coup. Voilà, bah, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez toujours venir essayer, même si vous n'aimez pas. Okay. Venez essayer, faut être curieux dans la vie. Allez, venez.
Très bien. Donc un sport auto-arbitré, mixte, convivial, pas très contraignant en termes d'horaire et de planning. Bah, chouette. C'est parti. Et donc justement, vous pouvez les rencontrer pour échanger avec eux. Donc je le rappelle, l'équipe des Pirates Ultimate, donc les lundis et mercredis au terrain des Gandonnières à Laval, ou les contacter sur leur page Facebook, les Pirates Stade Lavallois Ultimate. Et pour terminer cette émission, on vous propose donc la chronique portée par Christophe Troupeau, qui nous propose un petit coup d'œil dans le rétro. Après nous avoir parlé justement des sociétés littéraires, qui est plutôt du 18e siècle, de la fin 1700 et des brouettes, maintenant on revient plutôt sur les années 1830. Deuxième chronique proposée par Christophe sur l'histoire des associations. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors, après avoir évoqué le mois dernier la préhistoire des associations en Mayenne, à la fin du XVIIIe siècle, tu vas nous parler aujourd'hui du véritable début du mouvement associatif dans les années 1830. Alors, qu'est-ce qui a favorisé ou qu'est-ce qui favorise à cette époque l'essor des associations ?
Ben en fait, il y a deux raisons. La première, elle vient d'en haut, elle est politique. En 1830, le régime a changé. On est passé en France d'une monarchie avec un roi, Charles X, qui tentait de revenir à une monarchie absolue, à une monarchie plus libérale avec Louis-Philippe. Donc, il y a plus de tolérance à l'égard des associations qui souhaiteraient se créer. Et puis, la seconde raison, elle vient d'en bas. Au début du 19e siècle, on voit l'essor des cafés, des cabarets, en clair, des lieux où l'on peut boire et se divertir. Or, les notables ne souhaitent pas se mélanger au reste de la population, et il y a chez eux une volonté de créer des sociétés fermées, des cercles où on va pouvoir boire et s'amuser, mais entre gens de bonne compagnie.
Et ces notables mayennais, justement, est-ce qu'ils ont un modèle ?
Alors il y a déjà ce qui préexiste, c'est-à-dire les sociétés littéraires dont j'ai parlé le mois dernier, mais elles sont plutôt mal en point dans les années 1820-1830, et le véritable modèle, il va venir d'Angleterre, ce qu'on appelle communément les clubs. Alors, comment passe-t-on de l'Angleterre à la Mayenne ? Eh bien, en passant par Angers, puisque des marchands angevins ont tissé des relations commerciales avec des marchands anglais et ont importé en Anjou certains traits de leur mode de vie. Et dans les années 1830, eh bien, la mode est au club anglais. Et le sud de la Mayenne étant une partie de l'Anjou jusqu'à la Révolution française, l'influence est directe entre Angers et Cran, entre Angers et Château-Gontier, entre Angers et Saint-Denis d'Anjou. D'ailleurs, pour désigner ce type d'association, on parle de société d'hommes, car uniquement masculine, bien évidemment, ou de cercle angevin, pour les distinguer d'autres formes de cercles du sud de la France plus politisées.
Et toutes ces sociétés, ou justement ces cercles, est-ce qu'ils fonctionnent tous sur le même modèle ?
Alors, à l'origine, dans les années 1830, oui. Il y a un groupe de 10 à 15 notables de village qui décident de s'associer pour passer du bon temps en buvant du vin, du cidre, pour jouer au billard, pour jouer à la boule, et qui louent pour cela une maison avec un jardin, un appartement, ou même carrément privatisent une salle de café. Mais dès les années 1840, se greffent sur ce premier mouvement des sociétés dont le curé de village est à l'origine. C'est ce qu'on appelle des sociétés de cure. C'est une mode qui vient, elle aussi, de l'Anjou. Le curé est le principal fondateur, il est souvent aussi le président, et surtout les statuts montrent des attendus moraux beaucoup plus exigeants que dans les autres cercles. En gros, les membres fondateurs font œuvre, selon eux, de salubrité publique en évitant à leur fils de traîner dans les cafés et en ne fréquentant, ils veulent qu'ils ne fréquentent que des gens de bonne compagnie.
Mais du coup, dans ces sociétés de cure, on fait la même chose ou pas que dans les autres sociétés ?
On
cercle.
Fait exactement la même chose, il n'y a aucune différence, on y boit, on y joue, on y passe du bon temps comme ailleurs, mais avec la caution morale du curé. Je considère donc que les sociétés d'hommes et de cercles, les cercles angevins et les sociétés de cure forment un ensemble.
Et du coup, ces sociétés d'hommes ou de cures, enfin ces cercles, est-ce qu'ils sont nombreux à être créés ?
Oui, alors on comptait les sociétés littéraires de la fin du XVIIIe siècle sur les doigts d'une main, comme je l'avais dit. Et là, pour la période 1830-1880, j'ai répertorié 52 fondations de sociétés ou de cercles dans les campagnes mayennaises. On en retrouve dans les gros bourgs comme Cran, Évron, Ernée, Sainte-Suzanne, Montsûr, Mellet, mais aussi et surtout donc dans le sud du département, on en retrouve dans de tout petits villages. Il y a une sorte d'émulation entre communes voisines, comme entre Château-Gontier et Saint-Denis-d'Anjou, où on en retrouve à Azé, à Ménil, à Dan, à Argenton, à Saint-Michel-de-Fins, à Biarnet, à Boëre.
Ça foisonne. Voilà. Et que deviennent ces sociétés avec le temps ?
Alors la grande période de création, c'est la période entre les années 1830 et les années 1860, qui correspond à l'époque de la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe, puis au Second Empire avec Napoléon III. Mais à partir des années 1870 et surtout 1880, la Troisième République, elle s'installe dans la durée et va promouvoir d'autres formes de sociabilité associative, moins élitistes, plus populaires. Et les sociétés d'hommes ou de cures disparaissent les unes après les autres à partir de la fin du 19e siècle. Certaines fusionnent dans les gros bourgs, d'autres connaissent une mutation, comme l'association des Amis Réunis à Bouère, qui existe toujours et qui est devenue pleinement une association sportive de pratique de la boule de fort. Mais globalement, les sociétés d'hommes, les cercles angevins ou les sociétés de cure disparaissent. La dernière société de ce type que j'ai recensée est la société de la Gauvainerie à Cran, qui est dissoute dans les jours qui suivent la fin de la Première Guerre mondiale, le 24 novembre 1918. Et puis, les modes changent, les mentalités aussi, et certains groupements, comme les sapeurs-pompiers, vont avoir une influence capitale dans le renouveau du mouvement associatif dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais ça, je vous en parle le mois prochain.
Je suis impatient. Merci beaucoup, Christophe.
Merci.
Et oui, merci Christophe pour ce petit regard historique, toujours très intéressant. Donc c'est bien la fin, et oui c'est la fin de cette émission déjà, on relève la sauce. Alors vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission sur notre site internet L'Autre Radio, mais aussi l'intégralité des portraits de ces associations, et bien d'autres d'ailleurs sur la page Vie associative en Mayenne de notre site. Alors, si vous souhaitez aussi nous contacter ou partager des informations, annoncer des événements de votre association ou autre, envoyez-nous un petit mail à contact@l'autreradio.fr ou laissez-nous peut-être tout simplement aussi un message à l'attention des auditeurs au 09 70 40 59 40. Alors moi, du coup, il me reste juste à vous souhaiter une belle fin de journée à l'écoute de L'Autre Radio et on se retrouve le 17 novembre. Au revoir.